Avant de procéder à une présentation de tous les participants, j'aimerais vous apporter les salutations très fraternelles de celui qui, à ma connaissance, est l'initiateur de cette rencontre. Je veux parler de votre pasteur, ami du tabernacle, Maurice Jean-Charles, et de son épouse Anne-Marie. Ils m'ont envoyé un message pour me dire combien elle regrettait de ne pas pouvoir participer à cette belle fête qu'ils avaient appelée de leur vœu. Et nous sommes bien sûr très très peinés parce que pour des raisons de santé, ils ne peuvent pas vivre avec nous ce moment. Et nous vous prions, amis du tabernacle, de dire à Maurice comme à Anne-Marie notre réelle affection Jésus-Christ. Nous pensons à eux et nous penserons à eux tout au long de la journée. Nous prions aussi pour eux, nous prierons encore pour eux. Plusieurs amis de la rue de Sèvres qui ne sont pas ici ce matin m'ont demandé, s'il te plaît Paul, transmets aux amis présents nos regrets et notre affection fraternelle. Je le fais de manière globale, je vous dis qu'il y en a plusieurs qui m'ont demandé de le faire, mais vous donner les noms ne vous dirait pas grand-chose.
Je sers de roule-secours, comme vous l'avez deviné, c'est Monsieur Jean-Charles qui aurait dû apporter la méditation, le message de ce matin, mais empêché par la phlébite qui l'immobilise complètement et pour un mois encore. Il n'a pas pu donc se joindre à nous. J'ai fait parvenir le message de salutation fraternelle, mais le message sur le texte de l'Écriture et concernant notre thème d'aujourd'hui, l'unité, notre unité en Christ, alors là, il a fallu que je le prépare. Je voudrais aussi rassurer les tabernaclais qui ont vu hier sur la petite feuille de culte 11 heures études. Ceux qui me connaissent ont pu frémir. Mais voilà, à moins qu'on ne choisisse de suivre l'heure solaire, je vais être obligé de réduire le temps d'une étude de type courant. Je vous invite à écouter tout d'abord la parole de Dieu, à suivre la lecture des quelques versets qui nous guideront ce matin dans l'épître de l'apôtre Paul aux Éphésiens. Je lirai au chapitre 4, les versets 1 à 6. Épître aux Éphésiens, chapitre 4, versets 1 à 6. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance, celle de votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. J'avais un professeur, au temps où j'étais étudiant, qui disait « prêcher sur de grands textes ». Et j'ai souvent suivi ce conseil, que je crois très judicieux, même quand le commentaire est faible, le texte reste en mémoire, et il est là pour enrichir la méditation qui se poursuit tout au long de la semaine. Alors j'ai été conduit donc vers l'un des plus grands textes de l'Écriture concernant l'unité qui est entre tous les enfants de Dieu, tous les disciples authentiques de Jésus-Christ. L'apôtre Paul commence par une exhortation à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Cela nous rappelle qu'il y a une unité qui précède tout effort d'union, de rapprochement, de convergence, de coopération et tout ce qu'on voudra dire. L'unité, c'est la qualité de ce qui est un, alors que l'union, c'est le processus ou l'action qui tend à unir. nous sommes un. Et il s'agit pour nous, d'après l'exhortation, de conserver l'unité qui nous est donnée comme une grâce de la part de Dieu. Et ayant affirmé cette unité, nous ayant exhorté à la conserver avec toute diligence, l'apôtre ensuite, dans trois versets tout à fait remarquables, répète cette fois le numéral 1. En grec, il n'y a pas d'article indéfini, et le 1, qui pourrait servir à traduire simplement ce numéral répété, 1, 1, 1, comme ça, cette fois, c'est le numéral qui indique l'unité par opposition à la pluralité, par opposition à 2, 3, etc. Et c'est pourquoi les traducteurs, à juste titre, traduisent par deux mots en français, un seul, cette fois. Et j'aime à dire qu'il s'agit des sept piliers de l'unité chrétienne qui sont remarquablement présentés par les trois versets, 4 à 6, de ce chapitre dont nous avons lu le début. De même que la sagesse personnifiée, la sagesse divine, a sculpté ces sept piliers, les sept piliers de son palais, au moment où elle invite à son banquet, au chapitre 9 du livre des Proverbes, nous pouvons dire que la sagesse et la bonté divine nous proposent sept piliers de l'unité qui est entre nous. Et c'est cet ensemble que je voudrais considérer avec vous. Il y en a trois à gauche, trois à droite, et puis un grand pilier qu'on peut figurer au centre avec un chapiteau et une architrave, d'après mon dictionnaire, c'est ce qu'il faut dire, qui semble coiffer les autres piliers dans cette grande disposition de l'apôtre. Trois piliers à gauche, un corps, un esprit, une espérance. C'est la première triade. L'apôtre commence par la métaphore qui lui est chère, vous le savez, celle du corps. Il la développe d'ailleurs ensuite dans les versets 7 et jusqu'au moment, verset 16 en tout cas, du même chapitre. L'image du corps a plusieurs avantages. Elle nous rappelle, quant à notre unité, que nous sommes divers, comme les membres d'un corps sont divers et ne doivent pas être tous semblables les uns aux autres, tous identiques en tout cas les uns aux autres. L'apôtre Paul le souligne quand il écrit aux Corinthiens, sont divers et un en même temps, constituent un seul ensemble vivant. Cet ensemble vivant implique solidarité étroite. Quand un membre souffre, tous les membres souffrent. Si j'ai un panari, ça me fait mal partout et ça peut dégénérer finalement en septicémie. À partir d'un panari, tout le corps peut-être entraîné à la mort, nous le savons. Cela vaut aussi dans l'Église, en Jésus-Christ. Parfois, nous réagissons en disant, mais ça ne regarde que moi, hein, ce petit péché que je compte. Non, 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 non. Nous sommes membres d'un corps. Et tout ce qui affecte un membre du corps, affecte le corps tout entier. Et puis, si les membres sont divers, étant membres d'un seul et même corps, ils ont la même formule ADN, la même signature ADN. Ça, c'est un plus que la science moderne nous permet d'ajouter à ce que le Nouveau Testament met en relief. L'identité dans la relation, hein, celui qui nous a constitués comme membres d'un corps. Ayant dit un seul corps, l'apôtre, tout naturellement, pense un seul esprit. Parce que le corps humain est animé, habité par un esprit. Et le corps, qui est l'Église, est animé, habité par l'Esprit de Dieu. Et cet Esprit nous est présenté comme celui qui unit les uns aux autres, tous les membres du corps. Nous avons tous été baptisés, plongés en un seul Esprit pour former un même corps. L'Esprit est celui qui nous fait un. Et de telle sorte que l'union est une union divinement opéré, surnaturel, qui pourrait correspondre à la catégorie du miracle, en tout cas du mystère. L'unité que nous avons en Christ n'est pas simplement l'unité d'idées qui sont semblables, n'est pas seulement l'unité de goûts qui sont communs, de tendances qui nous permettraient de collaborer de manière heureuse. Ce n'est pas l'unité qui pourrait se découvrir entre tous les collectionneurs de timbres qui sont animés par la même passion, ou tous les supporters du PSG. J'espère que M. Appéré ne... Je sais que je m'aventure sur un terrain très dangereux. Hein. Notre unité en Christ transcende infiniment toutes ces unités qui peuvent être fondées sur des traits communs entre les humains. Notre unité en Christ, c'est l'Esprit de Dieu même qui l'a créé. Il en est le lien. Et l'Esprit constitue les arts, les prémices, les premiers fruits de ce qui nous est promis en plénitude pour le moment où le Seigneur Jésus reviendra. De telle sorte que Paul est tout naturellement entraîné à parler d'une seule espérance. L'Esprit est le gage de ce qui nous est promis et l'objet de notre espérance. De telle sorte que, ayant le même esprit, nous sommes entraînés dans le même mouvement vers ce qui vient, vers celui qui vient. En quelque sorte, nous pourrions dire que nous sommes comme entraînés dans un même fleuve de vie. Et ce fleuve, au lieu de descendre, comme font les fleuves de la terre, c'est un fleuve qui monte vers celui qui vient. Voilà pour les trois premiers grands piliers que nous propose notre texte. Deuxième série, on pourrait dire la série à droite, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Celui qui vient, c'est le Seigneur. Notre unité, dit le titre choisi pour la journée, c'est notre unité en Christ. Il est lui, le Seigneur, la référence qui valide l'expérience. L'Esprit suscite en nous une expérience d'un lien surnaturel entre nous tous. L'expérience aussi que nous pouvons, dans notre diversité, nous compléter et que nous sommes tous entraînés vers le même but. Mais l'expérience, elle nous tente aussi des pièges. Qui en dira à coup sûr l'authenticité, ou éventuellement devra dénoncer des éléments inauthentiques? L'esprit, on dit l'esprit, oui, mais l'esprit, il en souffle beaucoup d'esprits divers. Comment être sûr que c'est le Saint-Esprit, que ce n'est pas l'opération assez difficile à sonder jusqu'au fond de notre propre esprit créé, qui a des ressources qui dépassent parfois notre imagination? Comment être sûr qu'il ne s'agit pas d'un autre esprit, alors là, pas saint du tout, comme il en est à l'œuvre dans toutes les religions du monde, avec des expériences très fortes? L'apôtre Paul rappelle aux chrétiens de Corinthe que quand ils étaient encore païens, ils étaient comme entraînés, de nouveau cette image, vers des idoles muettes, mais ils sentaient quelque chose, c'était très fort. Et le mot enthousiasme, un mot qu'on ne trouve pas dans le Nouveau Testament s'en est soigneusement gardé, était typique de la piété du paganisme grec. Le culte des idoles créait un enthousiasme, un état d'être saisi par le Dieu. Alors comment être sûr que cet élément d'expérience dans lequel nous pensons trouver notre unité, c'est vraiment de l'authentique? C'est la référence au Seigneur Jésus. L'Esprit est l'Esprit de Jésus-Christ, l'Esprit du Seigneur. Il se fait reconnaître par la confession « Jésus est Seigneur ». Nul ne peut dire vraiment « Jésus est Seigneur » si ce n'est par l'Esprit de Dieu. Donc, en corrélation avec l'expérience de l'unité de l'Esprit, l'unité de la référence à celui dont l'Esprit est l'Esprit, le Seigneur. Ça, c'est le point que souligne l'apôtre. Et le rapport au Christ, fondamentalement, c'est la foi. Le Christ est celui qui et l'auteur et le consommateur, comme disaient les vieilles traductions, celui qui fonde et qui achève la foi, il est celui en qui nous croyons, crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé. Et il est donc très normal que Paul, après avoir dit un seul Seigneur, dise une seule foi. Alors en fait, les interprètes de ce texte hésitent un peu. Faut-il prendre ici le mot foi comme la vérité à croire, la foi transmise au sein une fois pour toutes, ou faut-il prendre la foi comme la démarche d'adhésion, comme cette projection de nous-mêmes qui nous attache au Seigneur? En fait, je pense que l'une ou l'autre de ces deux interprétations peuvent convenir et que ça ne fait plus finalement tellement de différence quand on se rend compte que la vérité de la foi, il faut y adhérer par ce mouvement de toute l'existence, et que ce mouvement n'est validé que par la vérité de la personne et de l'œuvre du Seigneur Jésus, qui est la foi transmise au sein une fois pour toutes. Donc au bout du compte, ça revient au même. La foi comme mouvement de notre intériorité, de notre cœur, finalement ne vaut que par son objet, que par celui auquel ce mouvement nous attache en vérité. Et la vérité, si elle restait isolée, sans toucher notre existence, ne nous vaudrait rien non plus. Ce sont les deux à la fois, forcément, qui sont en cause lorsque l'apôtre dit une seule foi, une seule et même vérité de la parole de Dieu à laquelle nous tenons de tout notre cœur, de tout notre être. Nous sommes unis par la foi. J'évoquais tout à l'heure la signature ADN qui permet de vérifier l'identité à partir d'un peu de salive qui serait resté au dos d'un timbre après 15 ans, d'après ce qu'on nous dit. Je pense qu'on peut dire que c'est la foi qui nous est commune, qui est la signature ADN de notre appartenance au corps du Christ, à ce corps dans lequel nous sommes un. Et il me semble remarquable que nos deux communautés ont été caractérisées au fil des années par un grand souci de maintenir la foi transmise au sein une fois pour toutes et embrassée d'un plein cœur. C'est le souci qui nous est commun et dont nous nous sentons particulièrement unis à cet égard. Le petit bulletin de notre église du tabernacle s'appelle « Le bon combat ». Et parce que précisément l'apôtre exhorte combat, le bon combat de la foi. Et cette foi est confessée d'une manière publique et solennelle qui engage totalement par le baptême. Donc un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Cet engagement d'une bonne conscience, bonne parce que purifiée par le sang de Christ envers Dieu, et comme le serment d'allégeance à notre chef. Je pense que nous avons à reconnaître que, par la suite de la faiblesse, de la faillibilité des humains, il y a authentiquement unité entre les chrétiens évangéliques, même quand il n'y a pas un seul baptême. Que la construction peut tenir encore avec 6 piliers au lieu de 7, celui du baptême ayant été malheureusement entamé et ébréché, sinon complètement abattu, dans de larges secteurs de la chrétienté. Je pense que nous n'avons pas à renoncer à nous penser un en Christ avec des frères et sœurs pédobaptistes, comme on les appelle, c'est-à-dire qui baptisent les nourrissons, les petits-enfants. Cependant, l'apôtre Paul parle de l'unique baptême aussi comme l'un des piliers de notre unité dans le Christ. Et je trouve très encourageant, profondément revigorant et joyeux que nous puissions nous dire, nous qui sommes réunis ce matin ici, qu'entre nous il y a un seul baptême, que nous avons reconnu la, pense, la vérité biblique du baptême des croyants qui confessent leur foi et s'engagent avec une bonne conscience envers Dieu et le Seigneur. Et je voudrais, là, sur ce point, dire deux choses assez précises pour que j'ai revu récemment. J'en avais en particulier oublié la première. Il y a eu des Français au tout début du mouvement baptiste dont nous sommes les héritiers. Il a commencé en Angleterre. Or, j'ai noté qu'alors que la première confession de foi des baptistes dont nous sommes directement issus, comme tout le mouvement baptiste moderne, date de 1644, dans sa deuxième édition, en 1646, parmi les signataires qui sont nommés à Londres, il y a les représentants d'une église française. Donc une église baptiste française de réfugiés protestants, mais qui était donc devenue baptiste, et les signataires s'appelaient Le Barbier et Le Duret. C'est la première chose que je signale en marge. Et puis la deuxième chose, c'est que je voudrais dire que nous risquons d'oublier, nous qui, en tout cas moi je l'ai été, nous qui avons été bercés par l'histoire des martyrs de la Réforme, de tous les huguenots et autres bibliens qui ont payé de leur vie la redécouverte du message central de l'Évangile, nous risquons d'oublier qu'il y a eu aussi des martyrs du baptisme, de la redécouverte de la vérité du baptême des croyants au XVIIe siècle. La plupart d'entre eux n'ont pas été exécutés pour leur baptisme, mais il y en a beaucoup qui sont morts quand même, parce que le nombre des pasteurs baptistes jetés en prison simplement parce qu'ils étaient baptistes a été énorme. Et pour beaucoup d'entre eux, les conditions de vie dans ces prisons étaient telles que beaucoup en sont morts. Il y a eu un pasteur baptiste qui s'appelait John James, qui en 1661 a été pendu, et puis son corps ensuite a été dépecé et mis dans les lieux où il pouvait être visible dans la ville. Donc il y a eu une exécution. Il y a eu d'autres exécutions, mais avec des motifs politiques interférents, donc c'est plus difficile de savoir si c'était simplement pour leur adhésion au baptisme. Mais il y en a beaucoup qui ont souffert beaucoup. Et il ne faudrait pas que nous l'oublions non plus. Et puis l'apôtre achève, c'est ce que j'ai appelé la grande colonne centrale, en disant: un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi ou par tous, deux façons de traduire la préposition, et en tous. Jésus renvoyait toujours au Père. Il est admirable quand l'on voit comment Jésus lisait les Écritures, comment lui-même dans ses propres prières s'exprimait, de voir à quel point il vivait dans la conscience de la présence du Père, faisant tout par rapport au Père. C'est un des traits fortement marqués de ce que les évangiles nous montrent de notre Seigneur Jésus. Il arrive que notre piété évangélique, en général, centrée sur la personne du Fils, notre Seigneur et Sauveur, néglige la référence au Père auquel le Seigneur nous conduit. Il est le chemin pour venir au Père. Et l'apôtre ici marque bien que pour avoir la vision d'ensemble de notre unité dans le Christ, il faut la référer au Père. Un seul Dieu est Père de tous. L'ensemble des sept piliers constitue une structure trinitaire liée à l'esprit, un seul esprit, l'unité du corps de l'Église et l'espérance, liée au Seigneur, la foi qui dit la vérité du Seigneur et le baptême qui nous engage auprès du Seigneur, donc l'Esprit, le Fils Seigneur et le Père. La vision globale de notre unité dans le Christ est trinitaire. Nous sommes non seulement les disciples du Seigneur Jésus, mais nous sommes fils et filles de Dieu. Notre unité n'est pas seulement celle d'un corps, mais aussi d'une famille, une fraternité. Et j'ai noté un beau passage de Calvin dans son commentaire sur ce texte d'Éphésiens 4, qui dit, je vous lis ce que j'ai noté, « Si cette pensée était vivement enracinée en nos cœurs, combien serions-nous plus diligents et soigneux d'entretenir paix et union fraternelle entre nous ? En quelle horreur aurions-nous toute rancune si nous considérions comme il appartient que tous ceux qui se séparent de leurs frères s'estrangent aussi du royaume des cieux, se rendent étrangers au royaume des cieux ? Mais je ne sais comment se fait cela, que nous nous glorifions hardiment d'être enfants de Dieu, cependant, oubliant la fraternité mutuelle qui doit être entre nous. » Et oui, c'est une chose étrange, notre inconséquence. Alors que nous confessons le même Seigneur et frère auquel nous sommes rendus de plus en plus semblables, et le même Père, si facilement nous oublions que cela implique le lien de fraternité. Et l'apôtre ajoute un seul Père qui est au-dessus de tous, par ou parmi tous, et en tous. De nouveau, la structure trinitaire. On pourrait dire qu'il reprend la structure trinitaire, qui est celle de l'ensemble des trois versets, pour montrer que dans la relation au Père, tout se récapitule. Toute la Trinité est comme récapitulée. Le Père, en tant que Père, est celui qui est au-dessus de tous, souverain, dont le plan est édifié dès avant la fondation du monde, qui est le premier et le dernier. Mais ce Père est parmi tous ou par tous, agissant par tous. Certains traducteurs choisissent d'ainsi interpréter. Par le Fils. C'est par le Fils qu'il est Dieu avec nous, venu au milieu de nous, faisant son œuvre parmi nous, gouvernant son Église et même les destinées du monde, puisque tout pouvoir lui a été remis dans les cieux et sur la terre. Le Père œuvre parmi tous par le Fils. Et si le Père est en tous, il est en tous par son Esprit qui fait sa demeure en nous, dont nous sommes le temple ensemble et chacun en particulier. Ça, ce n'est pas l'accent de l'épître aux Éphésiens, mais dans la première épître aux Corinthiens, il est remarquable que ce thème du temple soit associé à chaque chrétien en particulier. Ne savez-vous pas que votre corps, au sens le plus littéral, est le temple du Saint-Esprit et est associé aussi à la communauté comme telle. Par le Fils, par l'Esprit, Dieu le Père est parmi tous et en tous. Telle est la récapitulation qui nous donne la vision la plus ample, je crois, de notre unité dans le Christ. Unissant l'expérience vive, la référence historique, objective du Christ, de la foi, et le cadre ultime, la fondation dernière et première à la fois, du Père qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Que le Seigneur nous donne de demeurer dans cette maison dont les sept piliers font la structure si solide, indestructible, pour l'éternité. Amen.
Nous allons prier. Nous te louons, Seigneur, et te bénissons pour la réalité des liens qui nous unissent à toi. Te remercions de nous avoir rappelé que tu n'es pas seulement celui qui est au-dessus de tous, infiniment exalté au-dessus de nous, tu es aussi celui qui, en Jésus-Christ, a établi sa demeure parmi nous. Et dans son esprit, s'est introduit en nous. Oui, Seigneur, comment te dire notre gratitude pour ces liens dont nous savons qu'ils sont indestructibles. Ce que nous te demandons, Seigneur, c'est que ces liens apparaissent quand nous regardons individuellement, quand nous regardons en tant que communauté, ils soient indiscutables, que nous sommes bien en toi et que tu es bien en nous. Ce que nous te demandons aussi, Seigneur, c'est que cette unité qui nous lie chacun à toi, qui te lie, toi, à chacun d'entre nous, se reflète dans notre unité les uns avec les autres. Et que cette unité dise au monde quelque chose de ta gloire, de ton amour, de ta grâce. Qu'elle soit un témoignage à ton honneur. Et puisque nous pensons tout spécialement à nos deux communautés, que ces liens qui existent entre elles, en toi, servent ta réputation dans notre ville. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avions, rue de Sèvres, une très grande estime pour le tabernacle. Savoir aujourd'hui que cette église a des roues de secours de la qualité de celle dont nous venons de faire usage nous impressionne au plus haut point, nous humilie et en même temps nous réjouit pour vous.